Il en était là de son discours, quand ce jeune garçon qui avait emmené notre philosophe le ramena. « Et quoi, déjà dîné ?» lui cria mon démon. Il répondit que oui, à l'issue près. D'autant que le physionome lui avait permis de tâter de la nôtre. Le jeune hôte n'attendit pas que je lui demandasse l'explication de ce mystère. « Je vois bien, dit-il, que cette façon de vivre vous étonne. Sachez donc, quoique en votre monde on gouverne la santé plus négligemment, que le régime de celui-ci n'est pas à mépriser. Dans toutes les maisons, il y a un physionome, entretenu du public, qui est à peu près ce qu'on appellerait chez vous un médecin, hormis qu'il ne gouverne que les seins, et qu'il ne juge des diverses façons dont il nous fait traiter que par la proportion, figure et symétrie de nos membres, par les linéaments du visage, le coloré de la chair, la délicatesse du cuir, l'agilité de la masse, le son de la voix, la teinture, la force et la dureté du poil. N'avez-vous point tantôt pris garde à un homme de taille assez courte qui vous a si longtemps considéré? C'était le physionome de Séan. Assurez-vous que, selon qu'il aura reconnu votre complexion, il a diversifié l'exhalaison de votre dîner. Remarquez combien le matelas où l'on vous a fait coucher est éloigné de nos lits. Sans doute il vous a jugé d'un tempérament bien différent des nôtres, puisqu'il a craint que l'odeur qui s'évapore de ces petits robinets sur votre nez ne s'épandît jusqu'à nous, ou que la nôtre ne fumât jusqu'à vous. Vous le verrez ce soir qui choisira des fleurs pour votre lit avec les mêmes circonspections. » Pendant tout ce discours, je faisais signe à mon hôte qu'il tâchât d'obliger ses philosophes à tomber sur quelques chapitres de la science qu'il professait. Il m'était trop ami pour n'en faire naître aussitôt l'occasion. « Je ne vous déduirai point ni les discours ni les prières qui firent l'ambassade de ce traité, aussi bien la nuance du ridicule au sérieux fut trop imperceptible pour pouvoir être imitée. Tant il y a que le dernier venu de ces docteurs, ensuite d'autres choses, continua ainsi. « Il me reste à prouver qu'il y a des mondes infinis dans un monde infini. Représentez-vous donc l'univers comme un grand animal. Les étoiles, qui sont des mondes comme d'autres animaux dedans, lui, qui servent réciproquement de monde à d'autres peuples, tels qu'à nous, qu'aux chevaux et qu'aux éléphants, et que nous, à notre tour, sommes aussi les mondes de certaines gens encore plus petits, comme des chancres, des poux, des vers, des sirons. Ceux-ci sont la terre, d'autres imperceptibles. Ainsi, de même que nous paraissons un grand monde à ce petit peuple, peut-être que notre chair, notre sang et nos esprits ne sont autre chose qu'une tissure de petits animaux qui s'entretiennent, nous prêtent mouvement par le leur et se laissent aveuglément conduire à notre volonté qui leur sert de cocher. Nous conduisent nous-mêmes et produisent tout ensemble cette action que nous appelons la vie. Car, dites-moi, je vous prie, est-il malaisé à croire qu'un poux prenne notre corps pour un monde et que, quand quelqu'un d'eux a voyagé depuis l'une de vos oreilles jusqu'à l'autre, ses compagnons disent de lui qu'il a voyagé aux deux bouts du monde ou qu'il a couru de l'un à l'autre pôle? Oui, sans doute, ce petit peuple prend votre poil pour les forêts de son pays, les ports pleins de pituites pour les fontaines, les bubes et les sirops pour des lacs et des étangs, les apostumes pour des mers, les fluxions pour des déluges. Et quand vous vous peignez en devant et en arrière, ils prennent cette agitation pour le flux et le reflux de l'océan. La démangeaison ne prouve-t-elle pas mon dire? Ce siron qu'il a produit, est-ce autre chose qu'un de ces petits animaux qui s'est dépris de la société civile pour s'établir tyran de son pays? Si vous me demandez d'où vient qu'ils sont plus grands que ces autres petits imperceptibles, je vous demande pourquoi les éléphants sont plus grands que nous et les hibernois que les espagnols? Quant à cette ampoule et cette croûte dont vous ignorez la cause, il faut qu'elles arrivent, ou par la corruption des charognes de leurs ennemis que ces petits géants ont massacrés, ou que la peste, produite par la nécessité des aliments dont les séditieux se sont gorgés et laissés pourrir parmi la campagne des monceaux de cadavres, ou que ce tyran, après avoir tout autour de soi chassé ses compagnons qui de leur corps bouchaient les pores d'une autre et donnaient passage à la pituite, laquelle, étant extravasée hors la sphère de la circulation de notre sang, s'est corrompue. On me demandera peut-être pourquoi un siron en produit cent autres. Ce n'est pas chose malaisée à concevoir, car de même qu'une révolte en éveille une autre, ainsi ces petits peuples poussés du mauvais exemple de leurs compagnons séditieux aspirent chacun en particulier au commandement, allumant partout la guerre, le massacre et la faim. Mais, me direz-vous, certaines personnes sont bien moins sujettes à la démangeaison que d'autres. Cependant, chacun est rempli également de ces petits animaux. puisque ce sont eux, dites-vous, qui font la vie. Il est vrai. Aussi, remarquons-nous que les phlegmatiques sont moins en proie à la grattelle que les bilieux, à cause que le peuple sympathisant au climat qu'il habite est plus lent dans un corps froid qu'un autre, échauffé par la température de sa région, qui pétille, se remue et ne saurait demeurer en une place. Ainsi, le bilieux est bien plus délicat que le phlegmatique, parce qu'étant animé en bien plus de parties, et l'âme n'étant que l'action de ces petites bêtes, il est capable de sentir en tout les endroits où ce bétail se remue, là où le phlegmatique n'étant pas assez chaud pour faire agir qu'en peu d'endroits. Et pour prouver encore cette sironalité universelle, vous n'avez qu'à considérer quand vous êtes blessé comme le sang accourt à la plaie. Vos docteurs disent qu'il est guidé par la prévoyante nature qui veut secourir les parties débilitées. Mais voilà de belles chimères. Donc, outre l'âme et l'esprit, il y aurait encore en nous une troisième substance intellectuelle qui aurait ses fonctions et ses organes à part. Il est bien plus croyable que ces petits animaux, se sentant attaqués, envoient chez leurs voisins demander du secours, et qu'en étant arrivés de tous côtés, et le pays se trouvant incapable de tant de gens, ils meurent étouffés à la presse ou de faim. Cette mortalité arrive quand la posthume est mûre, car pour témoignage qu'alors ces animaux de vie sont éteints, c'est que la chair pourrie devient insensible. Que, si bien souvent la saignée qu'on leur donne pour divertir la fluxion profite, c'est à cause que, s'en étant perdu beaucoup par l'ouverture que ces petits animaux tâchaient de boucher, ils refusent d'assister leurs alliés, n'ayant que fort médiocrement la puissance de se défendre chacun chez soi. Il acheva ainsi. Et quand le second philosophe s'aperçut que nos yeux assemblés sur les siens l'exhortaient de parler à son tour, « Homme, dit-il, vous voyant curieux d'apprendre à ce petit animal, notre semblable, quelque chose de la science que nous professons, je dicte maintenant un traité que je serai fort aise de lui produire, à cause des lumières qu'il donne à l'intelligence de notre physique. C'est l'explication de l'origine éternelle du monde. Mais comme je suis empressé de faire travailler à mes soufflets, car demain, sans remise, la ville part, vous pardonnerez au temps, avec promesse toutefois qu'aussitôt qu'elle sera ramassée, je vous satisferai. » À ces mots, le fils de l'hôte appela son père, et lorsqu'il fut arrivé, la compagnie lui demanda l'heure. Le bonhomme répondit, 8 heures. Son fils alors, tout en colère, « Hé, venez ça, coquin !» lui dit-il. « Ne vous avais-je pas commandé de nous avertir à 7 ? Vous savez que les maisons s'en vont demain, que les murailles sont déjà parties, et la paresse vous cadenasse jusqu'à la bouche. « Monsieur, répliqua le bonhomme, on a tantôt publié, depuis que vous êtes à table, une défense expresse de marcher avant après-demain. « N'importe, repartit-il en lui lâchant une ruade, vous devez obéir aveuglément, ne point pénétrer dans mes ordres, et vous souvenir seulement de ce que je vous ai commandé. Vite, allez quérir votre effigie. » Lorsqu'il l'eut apportée, le jouvenceau la saisit par le bras et la fouetta durant un gros quart d'heure. « Arçu, vaurien, continua-t-il, en punition de votre désobéissance, je veux que vous serviez aujourd'hui de risée à tout le monde. Et pour cet effet, je vous commande de ne marcher que sur 2 pieds le reste de la journée. » Ce pauvre vieillard sortit fort éploré. Et son fils continua. « Messieurs, je vous prie d'excuser les friponneries de cet emporté. J'en espérais faire quelque chose de bon, mais il a abusé de mon amitié. Pour moi, je pense que ce coquin-là me fera mourir. En vérité, il m'a déjà mis plus de 10 fois sur le point de lui donner ma malédiction. » J'avais bien de la peine, quoique je me mordisse les lèvres, à m'empêcher de rire de ce monde renversé. Cela fut cause que, pour rompre cette burlesque pédagogie qui m'aurait à la fin sans doute fait éclater, je le suppliai de me dire ce qu'il entendait par ce voyage de la ville dont tantôt il avait parlé, si les maisons et les murailles cheminaient. Il me répondit « Nos cités, ô mon cher compagnon, se divisent en mobiles et en sédentaires. Les mobiles, comme par exemple celles où nous sommes à présent, sont construites ainsi. L'architecte construit chaque palais, ainsi que vous voyez, d'un bois fort léger. Il pratique dessous 4 roues. Dans l'épaisseur de la démure, il place des soufflets gros et nombreux, et dont les tuyaux passent d'une ligne horizontale à travers le dernier étage de l'un à l'autre pignon. De cette sorte, quand on veut traîner les villes autre part, car on les change d'air à toutes les saisons, chacun déplie sur l'un des côtés de son logis quantité de larges voiles au-devant des soufflets. Puis, ayant bandé un ressort pour les faire jouer, leur maison en moins de 8 jours, avec les bouffées continues qui vomissent ces monstres à vent et qui s'engouffrent dans la toile, sont emportés, si l'on veut, à plus de 100 lieues. Voici l'architecture des secondes que nous appelons sédentaires. Les logis sont presque semblables à vos tours, hormis qu'ils sont de bois et qu'ils sont percés au centre d'une grosse et forte vis qui règne de la cave jusqu'au toit, pour les pouvoir hausser ou baisser à discrétion. Or, la terre est creusée aussi profonde que l'édifice est élevé, et le tout est construit de cette sorte, afin qu'aussitôt que les gelées commencent à morfondre le ciel, ils descendent leur maison en les tournant au fond de cette fosse, et que, par le moyen de certaines grandes peaux dont ils couvrent et cette tour et son creuset circuit, ils se tiennent à l'abri des intempéries de l'air. Mais aussitôt que les douces haleines du printemps viennent à le radoucir, ils remontent toujours par le moyen de cette grosse vis dont j'ai parlé. Il voulait, je pense, arrêter là son poumon quand je pris ainsi la parole. « Par ma foi, monsieur, je ne croirais jamais qu'un maçon si expert puisse être philosophe, si je ne vous en ai vous-même pour témoin. C'est pourquoi, puisque l'on ne part pas encore aujourd'hui, vous aurez bien le loisir de nous expliquer cette origine éternelle du monde dont tantôt vous nous faisiez fête. Je vous promets en récompense, sitôt que je serai de retour de la lune, d'où mon gouverneur, je lui montrai mon démon, vous témoignera que je suis venu, d'y semer votre gloire en y racontant les belles choses que vous m'aurez dites. Je vois bien que vous riez de cette promesse, parce que vous ne croyez pas que la lune soit un monde, et encore moins que j'en sois un habitant. Mais je vous puis assurer aussi que les peuples de ce monde-là, qui ne prennent celui-ci que pour une lune, se moqueront de moi quand je leur dirai que leur lune est un monde, que les campagnes ici sont de terre et que vous êtes des gens. » Il ne me répondit que par un sourire. Puis il commença son discours de cette sorte. « Puisque nous sommes contraints, quand nous voulons remonter à l'origine de ce grand tout, d'encourir 3 ou 4 absurdités, il est bien raisonnable de prendre le chemin qui nous fait moins broncher. Le premier obstacle qui nous arrête, c'est l'éternité du monde. Et l'esprit des hommes n'étant pas assez fort pour la concevoir, et ne pouvant non plus s'imaginer que ce grand univers si beau, si bien réglé, peut s'être fait de soi-même, ils ont eu recours à la création. Mais, semblable à celui qui s'enfoncerait dans la rivière de peur d'être mouillé de la pluie, il se sauve des bras d'un nain à la miséricorde d'un géant. Encore ne s'en sauve-t-il pas, car cette éternité qu'ils ôtent au monde pour ne l'avoir pu comprendre, ils la donnent à Dieu, comme s'il leur était plus aisé de l'imaginer dedans l'un que dedans l'autre. Cette absurdité donc, ou ce géant duquel j'ai parlé, est la création. Car, dites-moi en vérité, a-t-on jamais conçu comment de rien il se peut faire quelque chose? Hélas, entre rien et un atome seulement, il y a des disproportions tellement infinies que la cervelle la plus aiguë n'y saurait pénétrer. Il faudra donc, pour échapper à ce labyrinthe inexplicable, que vous admettiez une matière éternelle avec Dieu. Et alors, il ne sera plus besoin d'admettre un Dieu, puisque le monde aura pu être sans lui. Mais, me direz-vous, quand je vous accorderai la matière éternelle, comment ce chaos s'est-il arrangé de soi-même? Ah, je vous le vais expliquer. Il faut, ô mon petit animal, après avoir séparé mentalement chaque petit corps visible en une infinité de petits corps invisibles, s'imaginer que l'univers infini n'est composé d'autre chose que de ces atomes infinis, très solides, très incorruptibles et très simples, dont les uns sont cubiques, d'autres parallélogrammes, d'autres angulaires, d'autres ronds, d'autres pointus, d'autres pyramidaux, d'autres hexagones, d'autres ovales, qui tous agissent diversement, chacun selon sa figure. Et qu'ainsi ne soit, posez une boule d'ivoire fort ronde sur un lieu fort uni. La moindre impression que vous lui donnerez, elle sera 2/4 d'heure sans s'arrêter. J'ajoute que, si elle était aussi parfaitement ronde, comme le sont quelques-uns de ces atomes dont je parle, elle ne s'arrêterait jamais. Si donc l'art est capable d'incliner un corps au mouvement perpétuel, pourquoi ne croirons-nous pas que la nature le puisse faire? Il en va de même des autres figures. L'une, comme la carrée, demande le repos perpétuel. D'autres, un mouvement de côté. D'autres, un demi-mouvement, comme de trépidation. Et la ronde, dont l'être est de se remuer, venant à se joindre à la pyramidale, fait peut-être ce que nous appelons le feu, parce que non seulement le feu s'agite sans se reposer, mais perce et pénètre facilement. Le feu a, outre cela, des effets différents selon l'ouverture et la quantité des angles où la figure ronde se joint. Comme par exemple le feu du poivre est autre chose que le feu du sucre. Le feu du sucre que celui de la cannelle, celui de la cannelle que celui du clou de girofle, et celui-ci que le feu d'un fagot. Or, le feu, qui est le constructeur et destructeur des parties et du tout de l'univers, a poussé et ramassé dans un chêne la quantité des figures nécessaires à composer ce chêne. Mais me direz-vous, comment le hasard peut-il avoir assemblé en un lieu toutes les choses qui étaient nécessaires à produire ce chêne ? Je réponds que ce n'est pas merveille que la matière ainsi disposée n'eût pas formé un chêne, mais que la merveille eût été bien grande si, la matière ainsi disposée, le chêne n'eût pas été formé. Un peu moins de certaines figures, c'eût été un orme, un peuplier, un saule, un sureau, de la bruyère, de la mousse. Un peu plus de certaines autres figures, c'eût été la plante sensitive, une huître à l'écaille, un ver, une mouche, une grenouille, un moineau, un singe, un homme. Quand, ayant jeté 3 dés sur une table, il arrive au rafle de 2, ou bien 3, 4 et 5, ou bien 2, 6 et 1, direz-vous « Oh, le grand miracle !» À chaque dé, il est arrivé même point, tant d'autres points pouvant arriver. Oh, le grand miracle! Il est arrivé en 3 dés, 3 points qui se suivent. Oh, le grand miracle! Il est arrivé justement 2, 6 et le dessous de l'autre 6. Je suis très assuré qu'étant homme d'esprit, vous ne ferez point ces exclamations. Car puisqu'il n'y a sur les dés qu'une certaine quantité de nombres, il est impossible qu'il n'en arrive quelqu'un. Vous vous étonnez comme cette matière, brouillée pêle-mêle au gré du hasard, peut avoir constitué un homme, vu qu'il y avait tant de choses nécessaires à la construction de son être. Mais vous ne savez pas que 100 millions de fois cette matière, s'acheminant au dessein d'un homme, s'est arrêtée à former tantôt une pierre, tantôt du plomb, tantôt du corail, tantôt une fleur, tantôt une comète, pour le trop ou trop peu de certaines figures qu'il fallait ou ne fallait pas à désigner un homme. Si bien que ce n'est pas merveille qu'entre une infinie quantité de matière qui change et se remue incessamment, elle est rencontrée à faire le peu d'animaux, de végétaux, de minéraux que nous voyons. Non plus que ce n'est pas merveille qu'en 100 coups de dés, il arrive un rafle. Aussi bien est-il impossible que de ce remuement il ne se fasse quelque chose. Et cette chose sera toujours admirée d'un étourdi qui ne saura pas combien peu s'en est fallu qu'elle n'ait pas été faite. Quand la grande rivière de Tout-Tout-Tout-Doum fait moudre un moulin, conduit les ressorts d'une horloge, et que le petit ruisseau de Tout-Tout-Tout-Tout ne fait que couler et se déborder quelquefois, vous ne direz pas que cette rivière est bien de l'esprit, parce que vous savez qu'elle a rencontré les choses disposées à faire tous ces beaux chefs-d'œuvre. Car si un moulin ne se fût point trouvé dans son cours, elle n'aurait pas pulvérisé le froment. Si elle n'eût point rencontré d'horloge, elle n'eût point marqué les heures. Et si le petit ruisseau dont j'ai parlé avait eu les mêmes rencontres, il aurait fait les mêmes miracles. Il en va tout ainsi de ce feu qui se meut de soi-même. Car, ayant trouvé les organes propres à l'agitation nécessaire pour raisonner, il a raisonné. Quand il en a trouvé de propres à sentir seulement, il a senti. Quand il en a trouvé de propres à végéter, il a végété. Et qu'ainsi ne soit qu'on crève les yeux de cet homme que ce feu ou cette âme fait voir, il cessera de voir, de même que notre grande rivière ne marquera plus les heures si l'on abat l'horloge. Enfin, ces premiers et indivisibles atomes font un cercle sur qui roulent sans difficulté les plus embarrassantes de la physique. Il n'est pas jusqu'à l'opération des sens, que personne encore n'a pu bien concevoir, que je l'explique fort aisément avec les petits corps. Commençons par la vue. Elle mérite, comme la plus incompréhensible, notre premier début. Elle se fait donc, à ce que je m'imagine, quand les tuniques de l'œil, dont les pertuis sont semblables à ceux du verre, mettant cette poussière de feu qu'on appelle rayon visuel et qu'elle est arrêtée par quelque matière opaque qui la fait rejaillir chez soi. Car alors, rencontrant en chemin l'image de l'objet qui l'a repoussée, et cette image n'étant qu'un nombre infini de petits corps qui s'exhalent continuellement en égale superficie du sujet regardé, elle la pousse jusqu'à notre œil. Vous ne manquerez pas de m'objecter que le verre est un corps opaque et fort serré, que cependant, au lieu de rechasser ses autres petits corps, il s'en laisse percer. Mais je vous réponds que les pores de verre sont taillés de même figure que ces atomes de feu qui le traversent, et que de même qu'un crible à froment n'est pas propre à cribler de l'avoine, ni un crible à avoine à cribler du froment, ainsi, Une boîte de sapin, quoique ténue, qui laisse échapper les sons, n'est pas pénétrable à la vue. Une pièce de cristal, quoique transparente, qui se laisse percer à la vue, n'est pas pénétrable à l'ouïe. Je ne pus m'empêcher de l'interrompre. Mais comment, lui dis-je, monsieur, par ces principes-là, expliquerez-vous la façon de nous peindre dans un miroir ? Il est fort aisé, me répliqua-t-il, car figurez-vous que ces feux de notre œil, ayant traversé la glace et rencontrant derrière un corps non diaphane qui les rejette, ils repassent par où ils étaient venus. Et trouvant ces petits corps partis d'une autre cheminant en superficie égale étendue sur le miroir, ils les ramènent à nos yeux. Et notre imagination, plus chaude que les autres facultés de l'âme, en attire le plus subtil, dont elle fait chez elle un portrait en raccourci. L'opération de Louis n'est pas plus malaisée à concevoir. Pour être un peu succinct, considérons-la seulement dans l'harmonie. Voilà donc un luth touché par les mains d'un maître de l'art. Vous me demanderez, comment se peut-il que j'aperçoive si loin de moi une chose que je ne vois point ? De mes oreilles sort-il des éponges qui boivent cette musique pour me la rapporter ? Ou ce joueur engendre-t-il dans ma tête un autre petit joueur avec un petit luth qui ait ordre de me chanter les mêmes airs ? Non, mais ce miracle procède de ce que, la corde tirée venant à frapper les petits cordes où l'air est composé, elle le chasse dans mon cerveau, le perçant doucement avec ses petits riens corporels. Et, selon que la corde est bandée, le son est haut, à cause qu'elle pousse les atomes plus vigoureusement, et l'organe ainsi pénétré en fournit à la fantaisie assez de quoi faire son tableau. Si trop peu, il arrive que notre mémoire n'ayant pas encore achevé son image, nous sommes contraints de lui répéter le même son, afin que les matériaux que lui fournissent, par exemple, les mesures d'une sarabande, elle en dérobe assez pour achever le portrait de cette sarabande. Mais cette opération n'est presque rien. Le merveilleux, c'est lorsque, par son ministère, nous sommes émus, tantôt à la joie, tantôt à la rage, tantôt à la pitié, tantôt à la rêverie, tantôt à la douleur. Cela se fait, je m'imagine, si le mouvement que ces petits corps reçoivent rencontre dedans nous d'autres petits corps remués de même sens, ou que leur propre figure rend susceptible du même ébranlement. Car alors, les nouveaux venus excitent leurs hôtes à se remuer comme eux. Et de cette façon, lorsqu'un air violent rencontre le feu de notre sang incliné au même branle, il anime ce feu à se pousser dehors. Et c'est ce que nous appelons ardeur de courage. Si le son est plus doux et qu'il n'ait la force de soulever qu'une moindre flamme plus ébranlée, à cause que la matière est plus volatile en la promenant le long des nerfs, des membranes et des pertuis de notre chair, elle excite ce chatouillement qu'on appelle joie. Il en arrive ainsi de l'ébullition des autres passions selon que ces petits corps sont jetés plus ou moins violemment sur nous, selon le mouvement qu'ils reçoivent par la rencontre d'autres branles et selon ce qu'ils trouvent à remuer chez nous. Voici quant à Louis. La démonstration du toucher n'est pas maintenant plus difficile. De toute matière palpable, se faisant une émission perpétuelle de petits corps, à mesure que nous la touchons, s'en évaporant davantage, parce que nous les éprégnons du sujet manié, comme l'eau d'une éponge que nous la pressons. Les durs viennent faire à l'organe rapport de leur solidité, les souples de leur mollesse, les raboteux de leur âpreté, les brûlants de leur ardeur, les gelés de leur glace. Et qu'ainsi ne soit, nous ne sommes plus si fins à discerner par l'attouchement avec les mains usées de travail, à cause de l'épaisseur du cal, et qui, pour n'être ni poreux ni animé, ne transmet pas que malaisément ces fumées de la matière. Quelqu'un désirera d'apprendre où l'organe de toucher tient son siège. Pour moi, je crois qu'il est répandu dans toutes les superficies de la masse, vu qu'il se fait par l'entremise des nerfs, dont notre cuir n'est qu'une tissure imperceptible et continue. Je m'imagine toutefois que, plus nous tâtons par un membre proche de la tête, plus vite nous distinguons. Cela se peut expérimenter quand les yeux clos nous patinons quelque chose, car nous la devinons aussitôt. Et si, au contraire, nous la tâtons du pied, nous travaillons beaucoup à la connaître. Cela provient de ce que notre peau étant partout criblée de petits trous, nos nerfs, dont la matière n'est pas plus serrée, perdent en chemin beaucoup de ces petits atomes par les menus pertuis de leur contexture, auparavant d'être arrivés jusqu'au cerveau où aboutit leur voyage. Il me reste à prouver que l'odorat et le goût se fassent aussi par l'entremise des mêmes petits corps. Dites-moi donc, lorsque je goûte un fruit, n'est-ce pas à cause de l'humidité de la bouche qui le font ? Avouez-moi donc que, y ayant dans une poire d'autres sels, et la dissolution les partageant aux petits corps, d'autres figures que ceux qui composent la saveur d'une prune, il faut qu'ils percent notre palais d'une manière bien différente. Tout ainsi que l'escarre enfoncée par le fer d'une pique qui me traverse n'est pas semblable à ce que me fait souffrir en sursaut la balle d'un pistolet, et de même que la balle d'un pistolet m'imprime une autre douleur que celle d'un carreau d'acier. De l'odorat, je n'ai rien à dire, puisque vos philosophes mêmes confessent qu'il se fait par une émission continuelle de petits corps qui se déprennent de leur masse et qui frappent notre nez en passant. Je m'en vais sur ce principe, vous expliquer la création, l'harmonie et l'influence des globes célestes avec l'immuable variété des météores. Il allait continuer, mais le vieil hôte entra là-dessus qui fit songer notre philosophe à la retraite. Il apportait les cristaux pleins de verre luisant pour éclairer la salle. Mais comme ces petits feux insectes perdent beaucoup de leur éclat quand ils ne sont pas frais amassés, ceux-ci, vieux de 10 jours, ne flambaient presque point. Mon débon n'attendit pas que la compagnie en fût accommodée. Il monta à son cabinet et en redescendit aussitôt avec 2 boules de feu si brillantes que chacun s'étonna comme il ne se brûlait point les doigts. « Ces flambeaux à combustible, dit-il, nous serviront mieux que vos pelotons de verre. Ce sont des rayons de soleil que j'ai purgés de leur chaleur. » Autrement, les qualités corrosives de son feu auraient blessé votre vue en l'éblouissant. J'en ai fixé la lumière et l'ai renfermée dedans ces boules transparentes que je tiens. Cela ne vous doit pas fournir un grand sujet d'admiration, car il ne m'est non plus difficile à moi, qui suis né dans le soleil, de condenser des rayons qui sont la poussière de ce monde-là, qu'à vous d'amasser de la poussière ou des atomes qui sont la terre pulvérisée de celui-ci. Contenu achevé le panégyrique de cet enfant du soleil, le jeune hôte envoya son père reconduire les 2 philosophes, parce qu'il était tard, avec 12 de globes à verre pendus à ses 4 pieds. Pour nous autres, à savoir le jeune hôte, mon précepteur et moi, nous nous couchâmes par ordre du physionome. Il me mit cette fois-là dans une chambre de violette et de lys, m'envoya chatouiller à l'ordinaire pour m'endormir, et le lendemain, sur les 9 heures, je vis entrer mon démon qu'il me dit qu'il venait du palais où l'une des demoiselles de la reine l'avait mandé, qu'elle s'était enquise de moi, et témoignait qu'elle persistait toujours dans les desseins de me tenir parole, c'est-à-dire que de bon cœur elle me suivrait si je la voulais mener avec moi dans l'autre monde. Ce qui m'a fort édifié, continua-t-il, c'est quand j'ai reconnu que le motif principal de son voyage ne bute qu'à se faire chrétienne. Aussi, je lui ai promis d'aider son dessein de toutes mes forces, et d'inventer, pour cet effet, une machine capable de tenir 3 ou 4 personnes dedans, laquelle vous pourrez monter ensemble. Dès aujourd'hui, je vais m'appliquer sérieusement à l'exécution de cette entreprise. C'est pourquoi, afin de vous divertir pendant que je ne serai point avec vous, voici un livre que je vous laisse. Je l'apportais jadis de mon pays natal. Il est intitulé « Les États et Empires du Soleil ». Je vous donne encore celui-ci, que j'estime beaucoup davantage. C'est le grand œuvre des philosophes, qu'un des plus forts esprits du Soleil a composé. Et il prouve là-dedans que toutes choses sont vraies, et déclare la façon d'unir physiquement les vérités de chaque contradictoire, comme par exemple que le blanc est noir et que le noir est blanc, qu'on peut être et n'être pas en même temps, qu'il peut y avoir une montagne sans vallée, que le néant est quelque chose et que toutes les choses qui sont ne sont point. Mais remarquez qu'il prouve ces inouïs paradoxes sans aucune raison captieuse ni sophistique. Quand vous serez ennuyé de lire, vous pourrez vous promener, ou bien vous entretenir avec notre jeune hôte, votre compagnon. Son esprit a beaucoup de charme. Ce qui me déplaît en lui, c'est qu'il est impie. Mais s'il lui arrive de vous scandaliser ou de faire par le raisonnement chanceler votre foi, ne manquez pas aussitôt de venir me les proposer. Je vous en résoudrai les difficultés. Un autre vous ordonnerait de rompre compagnie lorsqu'il voudrait philosopher sur ces matières. Mais comme il est extrêmement vain, je suis assuré qu'il prendrait cette fuite pour une défaite. Et se figurerait que votre créance serait contre la raison si vous refusiez d'entendre les siennes. Songez à librement vivre. Il me quitta en achevant ce mot, car c'est l'adieu dont, en ce pays-là, on prend congé de quelqu'un comme le « bonjour » ou le « monsieur, votre serviteur » s'exprime par ce compliment « aime-moi sage, puisque je t'aime ». À peine fut-il hors de présence que je me mis à considérer attentivement mes livres. Les boîtes, c'est-à-dire leurs couvertures, me semblèrent admirables pour leur richesse. L'une était taillée d'un seul diamant, plus brillant sans comparaison que les nôtres. La seconde ne paraissait qu'une monstrueuse perle fendue en 2. Mon démon avait traduit ses livres en langage de ce monde-là, mais parce que je n'ai point encore parlé de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de ces 2 volumes. À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je ne sais quoi de métal quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux, qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles, on n'a besoin que d'oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande, avec une grande quantité de toutes sortes de clés, cette machine. Puis, il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter, et au même temps, il sort de cette noix comme de la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, à l'expression du langage. Lorsque je réfléchis sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à 16 et à 18 ans que les barbes grises d'une autre. Car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche ou pendu à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont qu'à bander un ressort pour en ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s'ils sont en humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix. Ce présent m'occupa plus d'une heure, et enfin, me les étant attachés en forme de pendant d'oreilles, je sortis en ville pour me promener. Je n'eus pas achevé d'arpenter la rue qui tombe vis-à-vis de notre maison que je rencontrai, à l'autre bout, une troupe assez nombreuse de personnes tristes. Quatre d'entre eux portaient sur leurs épaules une espèce de cercueil enveloppé de noir. Je m'informai d'un regardant que voulait dire ce convoi semblable aux pompes funèbres de mon pays. Il me répondit que ce méchant « tu-tu-tu-tum » est nommé du peuple par une chiquenote sur le genou droit, qui avait été convaincu d'envie et d'ingratitude, était décédé d'hier, et que le Parlement l'avait condamné, il y avait plus de 20 ans, à mourir de mort naturelle et dans son lit, et puis d'être enterré après sa mort. Je me pris à rire de cette réponse, et lui m'interrogeant pourquoi. « Vous m'étonnez, lui répliquai-je, de dire que ce qui est une marque de bénédiction dans notre monde, comme une longue vie, une mort paisible, une sépulture pompeuse, serve en celui-ci de châtiment exemplaire. « Quoi ? Vous prenez la sépulture pour une marque de bénédiction ?» me repartit cet homme. « Et, par votre foi, pouvez-vous concevoir quelque chose de plus épouvantable qu'un cadavre marchant sur les vers dont il regorge ? À la merci des crapauds qui lui mâchent les joues ? Enfin, la peste revêtue du corps d'un homme ? Bon Dieu, la seule imagination d'avoir, quoique mort, le visage embarrassé d'un drap et sur la bouche une pique de terre me donne de la peine à respirer. Ce misérable que vous voyez porter, outre l'infamie d'être jeté dans une fosse, a été condamné d'être assisté dans ce convoi de 150 de ses amis, et commandement à eux, en punition d'avoir aimé un envieux et un ingrat, de paraître à ses funérailles avec le visage triste. Et sans que les juges en ont eu pitié, imputant en partie ses crimes à son peu d'esprit, il leur aurait ordonné d'y pleurer. Hormis les criminels, tout le monde est brûlé. Aussi est-ce une coutume très décente et très raisonnable, car nous croyons que le feu, ayant séparé le pur de l'impur et de sa chaleur rassemblé par sympathie cette chaleur naturelle qui faisait l'âme, il lui donne la force de s'élever toujours, en montant jusqu'à quel astre, la terre de certains peuples plus immatériels que nous, plus intellectuels, parce que leur tempérament doit correspondre et participer à la pureté du globe qu'ils habitent, et que cette flamme radicale s'étant encore rectifiée par la subtilité des éléments de ce monde-là, elle vient à composer un des bourgeois de ce pays enflammé. Ce n'est pas pourtant encore notre façon d'inhumer la plus belle. Quand un de nos philosophes est venu à un âge où il sent ramollir son esprit, et la glace des ans engourdir les mouvements de son âme, il assemble ses amis par un banquet somptueux. Puis, ayant exposé les motifs qui l'ont fait résoudre à prendre congé de la nature, le peu d'espérance qu'il a de pouvoir ajouter quelque chose à ses belles actions, on lui fait, ou grâce, c'est-à-dire on lui ordonne la mort, ou un sévère commandement de vivre. Quand donc, à la pluralité de voix, on lui a mis son souffle entre ses mains, il avertit ses plus chers et du jour et du lieu. Ceux-ci se purgent et s'abstiennent de manger pendant 24 heures. Puis, arrivés qu'ils sont au logis du sage après avoir sacrifié au soleil, ils entrent dans la chambre où le généreux les attend appuyés sur un lit de parade. Chacun vole à son rang aux embrassements, et quand se vient à celui qu'il aime le mieux, après l'avoir baisé tendrement, il l'appuie sur son estomac et, joignant sa bouche à sa bouche, de la main droite qui la libre, il se baigne à poignard dans le cœur. L'amant ne détache point ses lèvres de celles de son amant qu'il ne le sent expirer. Alors, il retire le fer de son sein, et fermant de sa bouche la plaie, il avale son sang et suce toujours jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus boire davantage. Aussitôt un autre lui succède, et l'on porte celui-ci au lit. Le second rassasié, on le mène coucher pour faire place au troisième. Enfin, toute la troupe repue, on introduit à chacun, au bout de 4 ou 5 heures, une fille de 16 ou 17 ans, et pendant 3 ou 4 jours qu'ils sont à goûter les délices de l'amour, Ils ne sont nourris que de la chair du mort qu'on leur fait manger tout de cru, afin que, si de ces embrassements il peut naître quelque chose, ils soient comme assurés que c'est leur ami qui revit. Je ne donnais pas la patience à cet homme de discourir davantage, car je le plantai là pour continuer ma promenade. Quoique je la fisse assez courte, le temps que j'employais aux particularités de ces spectacles et à visiter plusieurs endroits de la ville fut cause que j'arrivais plus de 2 heures après le dîner préparé. On me demanda pourquoi j'étais arrivé si tard. « Ça n'a pas été ma faute, » répondis-je au cuisinier qui s'en plaignait. J'ai demandé plusieurs fois parmi les rues quelle heure il était, mais on ne m'a répondu qu'en ouvrant la bouche, serrant les dents et tordant le visage de Guingois. « Quoi ? » s'écria toute la compagnie. « Vous ne savez pas que par là ils vous montraient l'heure ?» Par ma foi, répartis-je, ils avaient beau exposer au soleil leur grand nez afin que je la prisse. « C'est une commodité, me dirent-ils, qu'il leur sert à se passer d'horloge, car de leurs dents ils font un cadran si juste qu'alors qu'ils veulent instruire quelqu'un de l'heure, ils desserrent les lèvres, et l'ombre de ce nez qui vient tomber dessus marque comme sur un cadran celle dont le curieux est en peine. Maintenant, afin que vous sachiez pourquoi tout le monde dans ce pays a le nez grand, apprenez qu'aussitôt qu'une femme est accouchée, la matrone porte l'enfant au prieur du séminaire. Et justement, au bout de l'an, les experts étant assemblés, si son nez est trouvé plus court qu'une certaine mesure que tient le syndic, il est censé Camus et mis entre les mains des prêtres qui le châtrent. Vous me demanderez, possible, la cause de cette barbarie? Comment se peut-il faire que nous, chez qui la virginité est un crime, établissions des continents par force? Sachez que nous le faisons après avoir observé depuis 30 siècles qu'un grand nez est à la porte de chez nous une enseigne qui dit « Séant, loge un homme spirituel, prudent, courtois, affable, généreux et libéral, et qu'un petit est le bouchon des vices opposés. C'est pourquoi les Camus ont bâti des eunuques, parce que la République aime mieux n'avoir point d'enfants d'eux que d'en avoir de semblables à eux. » Il parlait encore lorsque je vis entrer un homme tout nu. Je m'assis aussitôt et me couvris pour lui faire honneur, car ce sont les marques du plus grand respect qu'on puisse en ce pays-là témoigner à quelqu'un. « Le royaume, dit-il, souhaite que vous avertissiez les magistrats, avant que de partir pour votre pays, à cause qu'un mathématicien vient tout à l'heure de promettre au conseil que, pourvu qu'étant de retour en votre monde, vous vouliez construire une certaine machine qui vous enseignera, correspondant à une autre qu'il tiendra prête en celui-ci, il l'attirera à lui et le joindra à notre globe. » Sitôt qu'il fut sorti, « Et je vous prie, m'adressant au jeune hôte, apprenez-moi que veut dire ce bronze figuré en partie honteuse qui pend à la ceinture de cet homme. J'en avais bien vu quantité à la cour du temps que je vivais en cage, mais parce que j'étais quasi toujours environnée des filles de la reine, j'appréhendais de violer le respect qui se doit à leur sexe et à leur condition, si j'eusse en leur présence attiré l'entretien d'une manière si grasse. Les femelles, ici non plus que les mâles, ne sont pas assez ingrates pour rougir à la vue de celui qui les a forgées. Et les vierges n'ont pas honte d'aimer sur nous, en mémoire de leur mère nature, la seule chose qui porte son nom. Sachez donc que l'écharpe dont cet homme est honoré, où pend pour médaille la figure d'un membre viril, est le symbole du gentilhomme et la marque qui distingue le noble d'avec le roturier. J'avoue que ce paradoxe me sembla si extravagant que je ne pus m'empêcher d'en rire. Cette coutume me semble bien extraordinaire, dis-je à mon petit hôte, car en notre monde, la marque de noblesse est de porter l'épée. Mais lui, sans s'émouvoir, « Oh, mon petit homme !» s'écria-t-il, « que les grands de votre monde sont enragés de faire parade d'un instrument qui désigne un bourreau, qui n'est forgé que pour nous détruire, enfin l'ennemi juré de tout ce qui vit, et de cacher, au contraire, un membre sans qui nous serions au rang de ce qui n'est pas, le prométhée de chaque animal et le réparateur infatigable des faiblesses de la nature. Malheureuse contrée, où les marques de génération sont ignominieuses et où celles d'anéantissement sont honorables. Cependant, vous appelez ce membre-là les parties honteuses, comme s'il y avait quelque chose de plus glorieux que de donner la vie et rien de plus infâme que de l'ôter. » Pendant tout ce discours, nous ne laissions pas de dîner, et sitôt que nous fûmes levés de dessus nos lits, nous allâmes au jardin prendre l'air. Les occurrences et la beauté du lieu nous entretinrent quelque temps, mais comme la plus noble envie dont je fusse alors chatouillée, c'était de convertir à notre religion une âme si fort élevée au-dessus du vulgaire, je l'exhortai 1000 fois de ne pas embourber de matière le beau génie dont le ciel l'avait pourvu. Qu'il tirât de la presse des animaux cet esprit capable de la vision de Dieu, enfin qu'il avisât sérieusement à voir unir quelque jour son immortalité au plaisir plutôt qu'à la peine. « Quoi ? » me répliqua-t-il en s'éclatant de rire. « Vous estimez votre âme immortelle privativement à celle des bêtes ? Sans mentir, mon grand ami, votre orgueil est bien assolant. Et d'où argumentez-vous, je vous prie, cette immortalité au préjudice de celle des bêtes ? Serait-ce à cause que nous sommes doués de raisonnement et non pas elle ? En premier lieu, je vous le nie, et je vous prouverai, quand il vous plaira, qu'elle raisonne comme nous. Mais encore qu'il fût vrai que la raison nous eût été distribuée en apanage et qu'elle fût un privilège réservé seulement à notre espèce, est-ce à dire pour cela qu'il faille que Dieu enrichisse l'homme de l'immortalité parce qu'il lui a déjà prodigué la raison ? Je dois donc, à ce compte-là, donner aujourd'hui à ce pauvre une pistole parce que je lui donnais hier un écu ? Vous voyez bien vous-même la fausseté de cette conséquence, et qu'au contraire, si je suis juste plutôt que de donner une pistole à celui-ci, je dois donner un écu à l'autre, puisqu'il n'a rien touché de moi. Il faut conclure de là, ô mon cher compagnon, que Dieu, plus juste encore mille fois que nous, n'aura pas tout versé aux uns pour ne rien laisser aux autres. D'alléguer l'exemple des aînés de votre monde, qui emportent dans leur partage quasi tous les biens de la maison. C'est une faiblesse des pères qui, voulant perpétuer leur nom, ont appréhendé qu'il ne se perdît ou ne s'égara dans la pauvreté. Mais Dieu, qui n'est point capable d'erreur, n'a eu garde d'en commettre une si grande. Et puis, n'y ayant dans l'éternité de Dieu, ni avant ni après, les cadets chez lui ne sont pas plus jeunes que les aînés. Je ne le scelle point que ce raisonnement m'ébranla. Vous me permettrez, lui dis-je, de briser sur cette matière, parce que je ne me sens pas assez fort pour vous répondre. Je m'en vais quérir la solution de cette difficulté chez notre commun précepteur. Je montai aussitôt, sans attendre qu'il me répliquât, en la chambre de cet habile démon. Et, tout préambule à part, je lui proposai ce que venait de m'objecter touchant l'immortalité de nos âmes, et voici ce qu'il me répondit. « Mon fils, ce jeune étourdi, passionné de vous persuader qu'il n'est pas vraisemblable que l'âme de l'homme soit immortelle parce que Dieu serait injuste. Lui qui se dit père commun de tous les êtres, d'en avoir avantagé une espèce et d'avoir abandonné généralement toutes les autres au néant ou à l'infortune. Ses raisons, à la vérité, brillent un peu de loin. Et quoique je puisse lui demander, comme il sait que ce qui est juste à nous soit aussi juste à Dieu, comme il sait que Dieu se mesure à nos trônes, comme il sait que nos lois et nos coutumes qui n'ont été instituées que pour remédier à nos désordres servent aussi pour tailler les morceaux de la toute-puissance de Dieu, je passerai toutes ces choses, avec tout ce qu'ont si divinement répondu sur cette matière les pères de votre Église, et je vous découvrirai un mystère qui n'a point encore été révélé. Vous savez, ô mon fils, que de la terre il se fait un arbre, d'un arbre un pourceau, d'un pourceau un homme. Ne pouvons-nous donc pas croire, puisque tous les êtres en la nature tendent au plus parfait, qu'ils aspirent à devenir hommes, cette essence étant l'achèvement du plus beau mixte et le mieux imaginé qui soit au monde, étant le seul qui lui fasse le lien de la vie brutale avec l'angélique. Que ces métamorphoses arrivent, il faut être pédant pour le nier. Ne voyez-vous-nous pas qu'un pommier, par la chaleur de son germe, comme par une bouche, suce et digère le gazon qui l'environne, qu'un pourceau dévore ce fruit et le fait devenir une partie de soi-même, et qu'un homme, mangeant le pourceau, réchauffe cette chair morte, la joint à soi, et fait enfin revivre cet animal sous une plus noble espèce. Ainsi, ce grand pontife que vous voyez la mitre sur la tête, était, il n'y a que 60 ans, une touffe d'herbe en mon jardin. Dieu donc, étant le père commun de toutes ces créatures, quand il les aimerait toutes également, n'est-il pas bien croyable qu'après que, par cette métempsychose plus raisonnée que la pythagorique, tout ce qui sent, tout ce qui végète enfin, après que toute la matière aura passé par l'homme, alors ce grand jour du jugement arrivera où font aboutir les prophètes les secrets de leur philosophie. Je redescendis très satisfait au jardin et je commençai à réciter à mon compagnon ce que mon maître m'avait appris. Quand le physionome arriva pour nous conduire à la réfection et au dortoir. J'enterrai les particularités parce que je fus nourri et couché comme le jour précédent. Le lendemain, dès que je fus éveillé, je m'en allai faire lever mon antagoniste. « C'est un aussi grand miracle, lui dis-je en l'abordant, de trouver un fort esprit comme le vôtre enseveli du sommeil que de voir du feu sans action. » Il sourit de ce mauvais compliment. « Mais, s'écria-t-il avec une colère passionnée d'amour, ne déferez-vous jamais votre bouche aussi bien que votre raison de ces termes fabuleux de miracle ? Sachez que ces noms-là diffament le nom de philosophe. Comme le sage ne voit rien au monde qu'il ne conçoive ou qu'il ne juge pouvoir être conçu, il doit abominer toutes ces expressions de miracles, de prodiges, d'événements contre nature qu'ont inventé les stupides pour excuser les faiblesses de leur entendement. Je crus alors être obligé, en conscience, de prendre la parole pour le détromper. Encore lui répliquai-je que vous ne croyez pas aux miracles, ils ne laissent pas de s'en faire, et beaucoup, j'en ai vu de mes yeux. J'ai connu plus de 20 malades guéris miraculeusement. Vous le dites, interrompit-il, que ces gens-là ont été guéris par miracle, mais vous ne savez pas que la force de l'imagination est capable de combattre toutes les maladies à cause d'un certain baume naturel répandu dans nos corps, contenant toutes les qualités contraires à toutes celles de chaque mal qui nous attaque. Et notre imagination, avertie par la douleur, va choisir en son lieu le remède spécifique qu'elle oppose au venin et nous guérit. C'est là d'où vient que le plus habile médecin de notre monde conseille aux malades de prendre plutôt un médecin ignorant qu'il estimera fort habile qu'un fort habile qu'il estimera ignorant, parce qu'il se figure que notre imagination travaille à notre santé. Pour peu qu'elle fût aidée des remèdes, elle était capable de nous guérir. Mais que les plus puissants étaient trop faibles quand l'imagination ne les appliquait pas. Vous étonnez-vous que les premiers hommes de votre monde vivaient tant de siècles sans avoir aucune connaissance de la médecine ? Leur nature était forte. Ce baume universel n'était pas dissipé par les drogues dont vos médecins vous consomment. Ils n'avaient, pour rentrer en convalescence, qu'à souhaiter fortement et s'imaginer d'être guéris. Aussitôt, leur fantaisie nette, vigoureuse et bandée, s'allait plonger dans cette huile vitale, appliquer l'actif au passif, et presque en un clin d'œil, les voilà sains comme auparavant. Ils ne laissent pas toutefois de se faire encore aujourd'hui des cures étonnantes, mais le populaire les attribue à miracle. Pour moi, je n'en crois point du tout, et ma raison est qu'il est plus facile que tous ces diseurs-là se trompent que cela n'est facile à faire. Car je leur demande, ce fiévreux qui vient de guérir a souhaité bien fort, comme il est vraisemblable, pendant sa maladie, de se revoir en santé. Il a fait des vœux. Or, il fallait nécessairement, étant malade, qu'il mourût, qu'il demeurât en son mal ou qu'il guérît. S'il fût mort, on eût dit « Dieu l'a voulu récompenser de ses peines. On le fera peut-être malicieusement équivoqué, disant que, sur les prières du malade, il l'a guéri de tous ses maux. S'il fût demeuré dans son infirmité, on aurait dit qu'il n'avait pas la foi. Mais parce qu'il est guéri, c'est un miracle tout visible. » N'est-il pas bien plus vraisemblable que sa fantaisie, excitée par les violents désirs de sa santé, a fait cette opération ? Car je veux qu'il soit réchappé beaucoup de ces messieurs qui s'étaient voués, combien davantage en voyons-nous qui sont pérés misérablement avec leurs vœux. Mais à tout le moins, lui répartis-je, si ce que vous dites de ce baume est véritable, c'est une marque de la raisonnabilité de notre âme, puisque, sans se servir des instruments de notre raison, ni s'appuyer du concours de notre volonté, elle sait d'elle-même, comme si elle était hors de nous, appliquer l'actif au passif. Or si, étant séparée de nous, elle est raisonnable, il faut nécessairement qu'elle soit spirituelle. Et si vous la confessez spirituelle, je conclus qu'elle est immortelle, puisque la mort n'arrive aux animaux que par le changement des formes dont la matière seule est capable. Ce jeune homme alors s'étant mis à son séant sur le lit, et m'ayant fait asseoir de même, discourut à peu près de cette sorte. Pour l'âme des bêtes qui est corporelle, je ne m'étonne pas qu'elle meure, vu qu'elle n'est possible qu'une harmonie des quatre qualités, une force de sang, une proportion d'organes bien concertée. Mais je m'étonne bien fort que la nôtre, incorporelle, intellectuelle et immortelle, soit contrainte de sortir de chez nous pour les mêmes causes qui font périr celle d'un bœuf. A-t-elle fait pacte avec notre corps que, quand il aurait un coup d'épée dans le cœur, une balle de plomb dans la cervelle, une mousquetade à travers le corps, d'abandonner aussitôt sa maison trouée ? Encore manquerait-elle souvent à son contrat, car quelques-uns meurent d'une blessure dont les autres réchappent. Il faudrait que chaque âme eût fait un marché particulier avec son corps. Sans mentir, elle qui a tant d'esprit, à ce que nous a fait à croire, est bien enragée de sortir d'un logis quand elle voit qu'au partir de là, on lui va marquer son appartement en enfer. Et si cette âme était spirituelle, et par soi-même raisonnable, comme ils disent, qu'elle fût aussi capable d'intelligence quand elle est séparée de notre masse, qu'alors qu'elle en est revêtue. Pourquoi les aveugles nés, avec tous les beaux avantages de cette âme intellectuelle, ne sauraient-ils même s'imaginer ce que c'est que de voir ? Pourquoi les sourds n'entendent-ils point? Est-ce à cause qu'ils ne sont pas encore privés par le trépas de tous les sens? Quoi? Je ne pourrai donc me servir de ma main droite parce que j'en ai aussi une gauche? Ils allèguent, pour prouver qu'elle ne saurait agir sans les sens, encore qu'elle soit spirituelle, l'exemple d'un peintre qui ne saurait faire un tableau s'il n'a des pinceaux. Oui, mais ce n'est pas à dire que le peintre qui ne peut travailler sans pinceaux, quand, avec ses pinceaux, il aura perdu ses couleurs, ses crayons, ses toiles et ses coquilles, qu'alors il le pourra mieux faire. Bien au contraire. Plus d'obstacles s'opposeront à son labeur, plus il lui sera impossible de peindre. Cependant, ils veulent que cette âme, qui ne peut agir qu'imparfaitement, à cause de la perte d'un de ses outils dans le cours de sa vie, puisse alors travailler avec perfection quand, après notre mort, elle les aura tous perdus. S'ils nous viennent réclamer qu'elle n'a pas besoin de ses instruments pour faire les fonctions, je leur rechanterai qu'il faut fouetter les 15-20 qui font semblant de ne voir goutte. Mais, lui dis-je, si notre âme mourait, comme je vois bien que vous voulez conclure, la résurrection que nous attendons ne serait donc qu'une chimère, car il faudrait que Dieu les recréât, et cela ne serait pas résurrection. Il m'interrompit par un hochement de tête. « Eh, par votre foi, s'écria-t-il, qui vous a bercé de ce pot d'âne? Quoi, vous? Quoi, moi? Quoi, ma servante ressuscitée? Ce n'est point, lui répondis-je, un conte fait à plaisir. C'est une vérité indubitable que je vous prouverai. Et moi, dit-il, je vous prouverai le contraire. Pour commencer donc, je suppose que vous mangez un mahométan. Vous le convertissez, par conséquent, en votre substance. N'est-il pas vrai, ce mahométan, digéré, se change, parti en chair, parti en sang, parti en sperme? Vous embrasserez votre femme, et de la semence tirée tout entière du cadavre mahométan, vous jetez en moule un beau petit chrétien. Je demande, le mahométan aura-t-il son corps? Si la terre lui rend, le petit chrétien n'aura pas le sien, puisqu'il n'est tout entier qu'une partie de celui du mahométan. Si vous me dites que le petit chrétien aura le sien, Dieu dérobera donc au mahométan ce que le petit chrétien n'a reçu que de celui du mahométan. Ainsi, il faut absolument que l'un ou l'autre manque de corps. Vous me répondrez peut-être que Dieu reproduira de la matière pour supplier à celui qui n'en aura pas assez. Oui, mais une autre difficulté nous arrête. C'est que le mahométan damné, ressuscitant, et Dieu lui fournissant un corps tout neuf à cause du sien que le chrétien lui a volé, comme le corps tout seul, comme l'âme toute seule ne fait pas l'homme, mais l'un et l'autre joints en un seul sujet, et comme le corps et l'âme sont parties aussi intégrantes de l'homme l'une que l'autre, si Dieu pétrit à ce mahométan un autre corps que le sien, ce n'est plus le même individu. Ainsi, Dieu damne un autre homme que celui qui a mérité l'enfer. Ainsi, ce corps a paillardé. Ce corps a criminellement abusé de tous ses sens, et Dieu, pour châtier ce corps, en jette un autre au feu, lequel est vierge, lequel est pur, et qui n'a jamais prêté ses organes à l'opération du moindre crime. Et ce qui serait encore bien ridicule, c'est que ce corps aurait mérité l'enfer et le paradis tout ensemble, car en tant que mahométan, il doit être damné, en tant que chrétien, il doit être sauvé. De sorte que Dieu ne le saurait mettre en paradis qu'il ne soit injuste, récompensant de la gloire la damnation qu'il avait méritée comme mahométan, et ne le peut jeter en enfer qu'elle ne soit injuste aussi, récompensant de la mort éternelle la béatitude qu'il avait méritée comme chrétien. Il faut donc, s'il veut être équitable, qu'il damne et sauve éternellement cet homme-là. Alors je pris la parole. Eh, je n'ai rien à répondre, lui repartis-je, à vos arguments sophistiques contre la résurrection. Tant il y a que Dieu l'a dit, Dieu qui ne peut mentir. N'allez pas si vite, me répliqua-t-il, vous en êtes déjà à Dieu l'a dit. Il faut prouver auparavant qu'il y ait un Dieu, car pour moi je vous le nie tout à plat. Je ne m'amuserai point, lui dis-je, à vous réciter les démonstrations évidentes dont les philosophes se sont servis pour l'établir. Il faudrait redire tout ce qu'ont jamais écrit les hommes raisonnables. Je vous demande seulement quel inconvénient vous occurrez de le croire. Je suis bien assuré que vous ne m'en seriez prétexté aucun. Puisque donc, il est impossible d'en tirer que de l'utilité. Que ne vous le persuadez-vous? Car s'il y a un Dieu, outre qu'en ne le croyant pas, vous vous serez mécompté, vous aurez désobéi aux préceptes qui commandent d'en croire. Et s'il n'y en a point, vous n'en serez pas mieux que nous. Si fait, me répondit-il, j'en serai mieux que vous, car s'il n'y en a point, vous et moi serons à deux de jeu. Mais au contraire, s'il y en a, je n'aurais pas pu avoir offensé une chose que je croyais n'être point, puisque pour pécher, il faut ou le savoir ou le vouloir. Ne voyez-vous pas qu'un homme, même tant soit peu sage, ne se piquerait pas qu'un crocheteur l'eût injurié, si ce crocheteur aurait pensé ne pas le faire, s'il avait pris pour un autre, ou si c'était le vin qui lui fit parler. À plus forte raison Dieu, tout inébranlable, s'emportera-t-il contre nous pour ne l'avoir pas connu, puisque c'est lui-même qui nous a refusé les moyens de le connaître. Mais par votre foi, mon petit animal, si la créance de Dieu nous était si nécessaire, enfin, si elle nous importait de l'éternité, Dieu lui-même ne nous en aurait-il pas affût à tous les lumières aussi claires que le soleil qui ne se cache à personne? Car de feindre qu'il ait voulu jouer entre les hommes à cligne-musette, faire comme les enfants, toutou le voilà, c'est-à-dire tantôt se masquer, tantôt se démasquer, se déguiser à quelques-uns pour se manifester aux autres, c'est se forger un dieu, ou sot, ou malicieux, vu que si ça a été par la force de mon génie que je l'ai connu, c'est lui qui mérite et non pas moi, d'autant qu'il pouvait me donner une âme ou des organes imbéciles qui m'auraient fait méconnaître. Et si, au contraire, il m'eût donné un esprit incapable de le comprendre, ce n'aurait pas été ma faute mais la sienne, puisqu'il pouvait m'en donner un si vif que je l'eusse compris. Ces opinions, diaboliques et ridicules, me firent naître un frémissement par tout le corps. Je commençai alors de contempler cet homme avec un peu plus d'attention, et je fus bien ébahi de remarquer sur son visage je ne sais quoi d'effroyable que je n'avais point encore aperçu. Ses yeux étaient petits et enfoncés, le teint basané, la bouche grande, le manteau velu, les ongles noirs. « Oh Dieu !» songeai-je aussitôt. « Ce misérable et réprouvé de cette vie, et possible même que c'est l'antéchrist dont il se parle tant dans notre monde. » Je ne voulus pas pourtant lui découvrir ma pensée. À cause de l'estime que je faisais de son esprit, et véritablement les favorables aspects dont nature avait regardé son berceau, m'avaient fait concevoir quelque amitié pour lui. Je ne pus toutefois si bien me contenir que je n'éclatasse avec des imprécations qui le menaçaient d'une mauvaise fin. Mais lui, renvoyant sur ma colère, « Oui, s'écria-t-il, par la mort !» Je ne sais pas ce qu'il préméditait de dire, car sur cette entrefaite, on frappa à la porte de notre chambre, et je vois entrer un grand homme noir tout velu. Il s'approcha de nous, et saisissant le blasphémateur à foie de corps, il l'enleva par la cheminée. La pitié que j'eus du sort de ce malheureux m'obligea de l'embrasser pour l'arracher des griffes de l'Éthiopien. Mais il fut si robuste qu'il nous enleva tous deux, de sorte qu'en un moment nous voici dans la nue. Ce n'était plus l'amour du prochain qui m'obligeait à le serrer étroitement, mais l'appréhension de tomber. Après avoir été, je ne sais combien de jours à percer le ciel, sans savoir ce que je demanderais, je reconnus que j'approchais de notre monde. Déjà, je distinguais l'Asie de l'Europe et l'Europe de l'Afrique. Déjà, même mes yeux, par mon abaissement, ne pouvaient se courber au-delà de l'Italie. Quand le cœur me dit que ce diable, sans doute, emportait mon hôte en enfer, en corps et en âme, et que c'était pour cela qu'il le passait par notre terre, à cause que l'enfer est dans son centre. J'oubliais toutefois cette réflexion, et tout ce qui m'était arrivé depuis que le diable était notre voiture, à la frayeur que me donna la vue d'une montagne tout en feu que je touchais quasi. L'objet de ce brûlant spectacle me fit crier « Jésus-Marie !» J'avais encore à peine achevé la dernière lettre que je me trouvais étendu sur des bruyères au coupeau d'une petite colline et deux ou trois pasteurs autour de moi qui récitaient les litanies et me parlaient italien. « Oh ! » m'écriai-je alors, « Dieu soit loué ! J'ai donc enfin trouvé des chrétiens au monde de la lune. Et dites-moi, mes amis, en quelle province de votre monde suis-je maintenant ?»« En Italie, » me répondirent-ils. « Comment ? » interrompis-je. « Y a-t-il une Italie aussi au monde de la lune ?» J'avais encore si peu réfléchi sur cet accident que je n'avais pas encore aperçu qu'il me parlait italien et que je leur répondais de même. Quand donc je fus tout à fait désabusé et que rien ne m'empêcha plus de connaître que j'étais de retour en ce monde, je me laissai conduire où ces paysans voulurent me mener. Mais je n'étais pas encore arrivé aux portes de... que tous les chiens de la ville se virent précipiter sur moi. Et sans que la peur me jetât dans une maison où je m'y barre entre nous, j'étais infailliblement englouti. Un quart d'heure après, comme je me reposais dans ce logis, voici qu'on entend alentour un sabbat de tous les chiens, je crois, du royaume. On y voyait depuis le dogue jusqu'au bichon, hurlant de plus épouvantable furie que s'ils eussent fait l'anniversaire de leur premier Adam. Cette aventure ne causa pas peu d'admiration à toutes les personnes qui la virent. Mais aussitôt que j'eus éveillé mes rêveries sur cette circonstance, je m'imaginais tout à l'heure que ces animaux étaient acharnés contre moi à cause du monde d'où je venais. Car, disais-je en moi-même, comme ils ont accoutumé d'aboyer à la lune pour la douleur qu'elle leur fait de si loin. Sans doute, ils se sont voulu jeter dessus moi parce que je sens la lune, dont l'odeur les fâche. Pour me purger de ce mauvais air, je m'exposais tout nu au soleil dessus une terrasse. Je m'y allais 4 ou 5 heures durant, au bout desquelles je descendis. Et les chiens, ne sentant plus l'influence qui m'avait fait leur ennemi, s'en retournèrent chacun chez soi. Je manquis au port quand un vaisseau partirait pour la France. Et, lorsque je fus embarqué, je n'ai l'esprit tendu qu'à ruminer aux merveilles de mon voyage. J'admirais 1000 fois la providence de Dieu, qui avait reculé ces hommes naturellement impies en un lieu où ils ne puissent corrompre ses bien-aimés, et les avait punis de leur orgueil en les abandonnant en leur propre suffisance. Aussi, je ne doute point qu'ils n'aient différé jusqu'ici d'envoyer leur prêcher l'Évangile, parce qu'ils savaient qu'ils en abuseraient et que cette résistance ne servirait qu'à leur faire mériter une plus rude punition en l'autre monde.